France Musique.
Très rare concerto pour piano de Reynald Dohan. C'était son deuxième mouvement, la danse, avec Shani Di Luca au piano, l'orchestre de chambre de Paris dirigé par Hervé Niquet. Shani Di Luca, un nouveau disque qui vient de paraître, l'album Proust. Elle sera d'ailleurs dimanche au concert, en concert au Théâtre des Champs-Élysées à Paris pour ce programme à la recherche du temps perdu avec Nathalie Dessay. Un programme qu'elle donnera ensuite ici à Marseille au Théâtre de la Criée le 22 novembre. Un théâtre que vous dirigez, Masha Makeyev. Bonjour.
Bonjour.
À l'affiche en ce moment de la Criée, Tartuffe, Théorème ou Quand Molière rencontre Pasolini, votre nouveau spectacle ici à Marseille avant de tourner dans toute la France, ce sera notamment le mois prochain au Bouffe du Nord à Paris. Et sur scène, entre autres, un grand pianiste espagnol dans un rôle muet et pourtant qu'il est bavard. C'est vous, Luis Fernando Pérez. Bonjour.
Bonjour à tous.
Avant de parler avec vous de ce Tartuffe, Masha, voilà 10 ans que vous dirigez la Criée, vous allez quitter la maison l'été prochain, vous préparez l'ultime saison 2022-2023. Comment vous avez fait évoluer ce théâtre national en une décennie, en d'autres termes? Quel bilan, en quelques mots, vous tirez d'une décennie?
C'est difficile, les bilans, parce que d'abord, c'est pas fini. On a plein de belles choses cette saison, avec des musiciens magnifiques, notamment. Donc, j'ai ouvert la maison à...
À la musique, justement?
Bien sûr, à la musique, au cirque, à d'autres arts et d'autres disciplines, parce que nous, les théâtreux, on a vraiment besoin des autres artistes. Et je ne pouvais pas imaginer ce lieu-là, dans cette ville-là, sur le Vieux-Port, sans cette ouverture. C'est une telle réjouissance, c'est aussi sur un plateau, on en parlera, avoir un ou des musiciens, ils sont d'une telle exigence, ils apportent autre chose et ce frottement de nos pratiques et de nos arts est toujours très 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 heureux.
Frottement d'ailleurs qu'on retrouve dans un conservatoire comme celui-ci où la musique et l'art dramatique se mêlent. Vous-même, vous connaissez bien les lieux, Masha Makeyev.
Oui, j'ai beaucoup d'émotions à monter les grands escaliers dans ce palais Carli, ce palais des arts. Moi, ça me faisait rêver. Je rêvais.
Vous avez été étudiante ici. Hein.
Oui, je suis venue du temps de Pierre Barbizet, qui était un homme qui a beaucoup compté dans ma vie et qui a su. Qui savait nous montrer la voie et quand on était dans l'expectative, l'utopie de l'art. Et moi, je lui avais parlé des ballets russes et il était passé au clavier, il m'avait fait entendre des choses magnifiques. Et voilà, c'est une maison que Raphaël Imbert transforme et c'est tellement heureux parce que dans Marseille, ce palais des arts, ce conservatoire et la musique, comme la reine des arts ici, c'est formidable, et surtout avec ce lien avec la jeunesse en pleine ville et j'espère un lien de plus en plus fort avec notre théâtre aussi.
De la musique à la Criée, de la musique au conservatoire, de la musique notamment avec la folle Criée, une sorte de folle journée marseillaise qui aura lieu début décembre avec de la musique russe les 4 et 5 décembre.
Oui.
Tartuffe, Théorème, c'est en ce moment, jusqu'au 26 novembre, avec Xavier Gallet dans le rôle titre et surprise. Donc, Luis Fernando Pérez, le pianiste espagnol avec nous ce matin, dans le rôle de Laurent, c'est ça, l'espion de Tartuffe, en quelque sorte. Masha Makeyev, comment se fait-il que ce grand pianiste soit sur scène, alors que il ne parle pas, il joue un peu, il fait de la musique? Pourquoi vous l'avez choisi? Comment ça s'est fait, cette rencontre?
Là, je crois que c'est le destin qui a choisi cette chose par le truchement de René Martin. Parce que voilà, j'avais prévu.
Qui dirige le festival de la Ronde d'Oteron, notamment.
Le festival de la Ronde d'Oteron et voilà, qui est vraiment un des lieux les plus importants de ma vie. Et donc voilà, j'étais en panne d'un pianiste qui ne pouvait pas assurer le spectacle et j'étais dans l'attente de quelque chose. Et un soir à 11h30 du soir, j'ai appelé René. Je sais que c'était le festival. Je l'avais vu la veille et je l'ai appelé puis je lui ai dit voilà. Et il me dit, mais je crois que j'ai en face de moi, là, quelqu'un qui est exactement, voilà, que tu dois rencontrer. Et le lendemain matin, on s'est rencontrés à 11 heures. Et voilà. Et c'est un cadeau du ciel parce que j'aurais jamais osé espérer avoir quelqu'un de cette qualité artistique et humaine dans la troupe. Et voilà. Quelquefois, il y a dans nos vies d'artistes des choses difficiles, et quelquefois, il y a des absolus bonheurs comme ça.
Lucien-André Pérez, pourquoi avoir accepté cette proposition de, en quelque sorte, un peu, même si vous donnez des concerts entre des représentations, de mettre un peu entre parenthèses quelques mois votre carrière de pianiste?
Voilà, c'est comme Masha a dit très très bien. Nous sommes rencontrés cet matin délicieux chez elle, et quand j'ai trouvé cette femme, j'ai dit c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est cette femme, non? Parce qu'elle est une femme tellement merveilleuse. J'ai trouvé Masha tellement sophistiquée, tellement intelligente, tellement cultivée, tellement spéciale. Et je tournais amoureux d'elle. Et j'ai dit voilà, on a parlé ensemble et on a dit voilà, on fait l'aventure ou non? Et nous sommes regardés et on dit ok, allez.
Allez, on va en parler dans un instant. On va écouter un extrait de ce Tartuffe.
Tous ces deux jours passés de bonne sorte. Qu'est-ce qu'on fait, séant? Comment est-ce qu'on s'y porte?
Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir.
Et Tartuffe?
Tartuffe. Il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille.
Le pauvre homme.
Le soir, elle eut un grand dégoût et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle.
Et Tartuffe.
Et Tartuffe, Masha Makeyev, qui est Tartuffe? Qui est votre Tartuffe? Qu'est-ce qui vous intéressait dans le personnage de Molière et quelles questions la pièce pose-t-elle?
Alors d'abord, c'est Xavier Gallais. Il fallait cet acteur-là, cet endroit-là pour moi, pour justement regarder ce texte au travers du regard de quelqu'un qui m'accompagne depuis mon adolescence, ici même, dans cet endroit-là, je le lisais, c'est Pasolini, et j'ai pensé immédiatement, en relisant Tartuffe, à Théorème et à cet envoyé qui va révéler à chacun, chacune, par le corps, sa part d'ambivalence et sa névrose et tout ce qui ne va pas dans sa vie, ses ambiguïtés et aussi son incarnation. Voilà, c'est quelque chose. C'est un aspect du personnage qui m'intéressait beaucoup, qui est à la fois trouble et charismatique. Et puis, à l'autre côté, parce que c'est une pièce aussi politico-religieuse, dans l'autre côté, tout un mouvement sectaire qui existait au XVIIe siècle et qui, aujourd'hui, et surtout dans les années 50-60, était très, très lisible, de gens qui s'introduisent dans les maisons et qui ont une emprise sur les esprits, sur les corps, sur les biens. Et voilà, ce mouvement-là, ces polices des mœurs aussi qui sont toujours à nos portes. Il faut toujours faire très attention à ça. Aujourd'hui encore, ça résonne. Et à la fois, quelque chose chez Tartuffe d'un prédateur trouble. Et qu'est-ce que c'est le malheur de Tartuffe si ce n'est, on le voit à un moment vraiment dans le spectacle, je voulais vraiment qu'il y ait un moment de suspension, on le voit seul. Et le prédateur s'en proie. C'est un vrai malheur.
Luis Fernando Pérez, vous faites partie de la secte?
Oui, je suis aussi sectaire et je fais les personnages de Laurent qui ne parlent pas, naturellement mon français c'est pas idéal.
Mais vous êtes un méchant, hein,
très méchant.
Il est bien méchant, Masha Makeyev?
Il est formidablement méchant probablement, parce que dans la vie il en est incapable. Mais il y a aussi une relation assez perverse entre eux, de jouissance masochiste. Voilà.
Oui, je regarde à tout le monde de manière hyper méchante.
Luis Fernando Pérez, entre deux représentations, vous avez sorti un disque. Rachmaninoff, l'un des 6 moments musicaux enregistrés par Luis Fernando Pérez. C'est votre nouveau disque paru chez Mirare. Luis Fernando Pérez, est-ce que c'est aussi une façon de brouiller les pistes? Là, vous faites du théâtre pendant presque une saison et on vous connaît dans la musique espagnole, Granados, Albéniz, des merveilleux disques Mampou également. Et là, tout à coup, hop, la musique russe.
Ah oui, mais la musique russe a été toujours très proche à moi grâce à Dimitri Bashkirov et Galina Yazarova.
Récemment disparu.
Mes maîtres, oui, récemment disparu, il est décédé en mars. On vient de faire un hommage incroyable à l'école Reina Sofía à Madrid lundi et mardi passé. Et avec une famille de musiciens, de pianistes, Elena Bashkirova, Eldar Nevolsin, Stanislav Yudenich, Miriam Polsky, des pianistes incroyables. Tous ensemble, avec une très très belle énergie. J'ai pensé à lui beaucoup parce qu'il a fait les choses très bien, mais aussi il a eu, et comme Tartuffe, cette réputation d'être un peu méchant. Mais quand j'ai vu cet hommage, je pensais toujours à lui. J'ai dit, ah, ton dernier cadeau. Et tu as fait les choses pas mal du tout, hein, parce que si nous sommes tous ici ensemble heureux, ça veut dire quelque chose.
Ça, c'était en début de semaine à Madrid, ces concerts hommage à votre maître Bashkirov. Vous reprenez la présentation ici à Marseille. Et puis le 15 novembre, vous êtes en Pologne, à Gdansk. Le 18 novembre, à Cadix, vous faites comment?
Je sais pas. Grâce à Masha qui m'a respecté un peu mon calendrier de concerts. Mais c'est vrai que maintenant, c'est la
vous
folie.
Vous avez un remplaçant quand même. J'ai un remplaçant,
oui, Ruben Yesayan, qui est magnifique. Et voilà, et on essaye de faire les choses le mieux possible. Mais c'est vrai que j'ai bien, parfois je dors pas et je fais les choses. Mais je fais les choses bien, j'espère.
Comment vous êtes entré dans ce rythme du théâtre, très différent de celui du concert, du récital, travailler tout seul son instrument, et là tout à coup il y a plein de comédiens autour de vous?
C'est très très différent, c'est un monde très différent. Les mondes du théâtre, mon Dieu, ils travaillent là, hein, dans le monde du théâtre, on travaille beaucoup, beaucoup plus, on travaille beaucoup des heures, c'est vrai. Mais c'est vrai que la compagnie c'est extraordinaire, les acteurs sont extraordinaires, et aussi au niveau humain. Et ça vaut la peine, oui.
Et puis la musique a une place importante, Masha Makayev. Oui. Moi, j'ai pas pu voir la pièce parce qu'il y avait pas de représentation hier, tout simplement. Mais j'ai des espions. D'ailleurs, Nicolas Lafitte, qui était au micro il y a une demi-heure, m'a dit il y a une dimension opératique, comme un opéra, ce Tartuffe.
Oui, c'est vrai que quand je travaille à la mise en scène et au décor à la fois, les couleurs musicales viennent très vite. Et c'est vrai que c'est comme une dramaturgie, vraiment. Ça donne des piles de ponts. Et même pour les acteurs, quand je leur parle du projet, je leur fais entendre des choses et j'en vois des liens. Et c'est très important que les choses se tissent à cet endroit-là. La musique nous indique... Enfin, moi, je ne peux pas me passer de ça parce que, par exemple, j'écoutais Rachmaninoff et... C'est éblouissant. Et je pensais à Tchekhov, je me disais, mais il y a tout déjà, il y a toute la dramaturgie de cette âme, de ce monde qui va s'effondrer, de cette brisure comme ça du cœur humain à la fois et de l'histoire. Et donc voilà, je travaille comme ça et évidemment que il y a des phénomènes de surprise et d'étonnement, donc ça va d'Eric Satie au Givre, qui m'a fait découvrir Luis Fernando, mais aussi ça passe par Nirvana, Mahler, bien sûr, et puis voilà, et on avance comme ça, et les couleurs et la fantaisie, puis il y a beaucoup de choses qui restent sur le côté, mais qui nous habitent encore. Et avant chaque représentation, on chante, chaque répétition, toute la troupe chante. Et il y a aussi Jeanne-Marie Lévy, qui est professeure de musique et qui est chanteuse d'opéra, qui nous aide aussi à chanter. Et même ce qui n'aura pas lieu sur scène, on continue à le chanter, ça donne aussi une cohésion et une espèce de droiture et de plaisir de collectif aussi. C'est très important dans les troupes, l'aspect collectif, j'insiste toujours beaucoup là-dessus.
Luis Fernando Pérez, vous avez eu aussi un rôle de conseiller musical, vous participez à la bande son, comment on pourrait
dire,
comment ça s'est passé?
Mais avec tous les désirs de Masha, toujours à côté de Masha et ce vœu, mais aussi un tout petit peu conseiller, j'ai fait des improvisations aussi,
j'utilise de l'orgue.
Je suis secteur, qu'est-ce que tu penses? Et voilà, et oui, j'ai fait des petites improvisations.
Méchant secteur organiste.
Pour l'entrée de Tartuffe, les deux premiers accords de la Mortisolda, les Diesides, beaucoup de choses, un peu de Bach, l'ouverture française de Bach. Voilà, on veut pas dire tout parce qu'on veut un peu garder les secrets, hein, pour le public.
Oui, il faut associer aussi associer le travail de Sébastien Trouvé, qui est un garçon qui invente du son et qui installe aussi l'art d'installer le son, l'architecture du son dans la salle et les surprises et sur le plateau. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec deux artistes à la fois si différents et c'était quelque chose d'assez heureux de ce point de vue-là. C'est très important parce que on apporte, il y a une complémentarité, il y a quelque chose aussi d'une surprise mutuelle. Ils étaient au début comme deux chats, Sébastien et Luis Fernando. Ils se regardaient comme ça en disant, mais tu es sûr, on va pouvoir faire des choses ensemble comme ça? Et puis vraiment, l'harmonie arrive par le travail toujours et par l'inspiration. Ouais.
Ça m'arrivait, et, oui.
Ah oui, et ça marche bien.
Tartuffe, Théorème, en ce moment jusqu'au 26 novembre à la Criée à Marseille, le mois prochain à Paris et au Bouffe du Nord et en tournée partout en France.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Depuis 2 ans, il dirige le Conservatoire de Marseille, Conservatoire Pierre Barbizet. Raphaël Humbert est notre invité ce matin, moi que ce ne soit l'inverse, puisque nous sommes chez vous pendant 3 jours. Bonjour monsieur le directeur.
Bonjour, quel bonheur de vous recevoir ici, c'est merveilleux.
Quel endroit, incroyable. Alors moi, comme une petite souris, hier on s'est glissé en votre absence dans votre bureau, figurez-vous.
Mais qu'est-ce que j'apprends?
Et on s'est dit, n'auriez-vous pas l'un des plus beaux bureaux du monde? Quelle vue? D'abord.
Oui. Alors c'est voilà. Donc en fait, je vais avoir plein de sollicitations à partir d'aujourd'hui. C'est très bien.
Désolé.
Mais c'est parfait parce qu'en fait, c'est un bureau légendaire. Il se dit que c'est le plus beau bureau de Marseille du monde. Je ne sais pas, mais quand on dit de Marseille, c'est du monde en fait. Hein, voilà. Donc ça va. Effectivement, c'est un très beau bureau qui était en fait la salle de cours de Pierre Barbizet. Et c'est pour ça qu'on a j'ai encore les deux magnifiques pianos, un immense Gaveau qui est une rareté et un très beau Steinway dans le bureau. Matt, oui, et c'est un endroit merveilleux dans lequel on travaille les répétitions, je donne mes cours aussi, enfin voilà,
Vous enregistrez.
Ben oui. Justement.
On en parlera tout à l'heure, votre dernier album, Raphaël Humbert. Ensemble, jusqu'à 9h, on va évoquer la vie de ce conservatoire que vous dirigez depuis 2 ans. Tiens, voici l'un de ses professeurs, arrivé d'ailleurs tout récemment, c'est Emmanuel Rosfelder. Extrait de la cathédrale d'Agustin Barrios avec Emmanuel Rosfelder à la guitare, qui est devenu récemment, qui est entré au Conservatoire de Marseille, qui est professeur de guitare. Raphaël Humbert, c'est important pour vous de faire entrer dans le conservatoire des musiciens qui ont aussi des grandes carrières de solistes, en plus d'être des pédagogues comme Emmanuel Rosfelder?
Je crois que c'est quelque chose de très important dans l'histoire du conservatoire, qui est cette association, cet équilibre, mais comme dans tout d'une certaine manière, entre des gens qui ont une grande carrière et qui ont des choses à à apporter de ce point de vue-là, dans la, en termes de dimension, dimension artistique, dimension esthétique et tout, et des gens qui sont peut-être des gens un peu moins connus, mais qui sont des pédagogues vraiment investis, qui ont une relation aux élèves qui peut être différente. Et le mélange que peut, cet équilibre qu'on peut trouver dans ce mélange-là est assez remarquable. Et à Marseille, il y a toujours eu, je trouve, moi, puisque j'ai été étudiant ici, je connais un peu la maison hein, déjà, il y a toujours eu cet équilibre entre grandes personnalités et des gens qui sont, et des professeurs qui sont des pédagogues avant tout. Tous sont des artistes. Il y a un niveau artistique du corps professoral à Marseille qui est remarquable et qui l'a toujours été, et qui est lié à cet équilibre de diversité. Mais comme à l'image de la ville, je veux dire la réussite de cette ville, avec toutes les critiques qu'on peut lui apporter, tous les questionnements que cette ville n'arrête pas de nous solliciter, nous susciter, c'est quand même cette diversité-là qui crée sa créativité.
On parlera dans quelques minutes d'ailleurs avec Isabelle Vernet, chanteuse et professeure de chant ici à Marseille. On va écouter dans un instant Pierre Barbizet, Raphaël Imbert, on a été rejoint par Isabelle Vernet, bonjour.
Bonjour.
Professeure de chant, grande chanteuse, d'un et l'autre, je voudrais juste que vous réagissiez à ce qu'on vient d'entendre. Le conservatoire où vous travaillez porte le nom de Pierre Barbizet, et on passe de Casimir à Hélène Grimaud, passant par Johnny qu'il aime, c'est tout ça, Barbizet?
Ah, d'ailleurs c'est très marseillais en fait. Enfin, c'est à l'image de cette ville, de l'amour de tout, et que tout peut faire sens. Puis apprendre qu'un aussi grand musicien aimait autant parler de musique que la jouer, ça me décomplexe un petit peu plus, parce que j'aime bien parler de musique aussi.
Isabelle Vernet.
Une grande diversité, et quelle voix! Quelle voix, quelle gouaille, comme on dit. C'est vraiment, il était extraordinaire, cet homme. Malheureusement, je ne l'ai pas connu. Je le connais par l'intermédiaire de ma pianiste, qui rentre à 14 ans, en perfectionnement avec lui. Donc, Marie-France Arakelian, qui me raconte des anecdotes de lui. C'est un mec, quoi. Un mec.
on va l'écouter, ce mec, extrait du Carnaval de Robert Schumann. Carnaval de Robert Schumann, Pierre Barbizet au piano, il est 8h28.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
En direct de Marseille, en direct du conservatoire, Pierre Barbizet, donc avec le directeur Raphaël Imbert. J'allais dire Olivier. Olivier Vernet, c'est votre frère,
c'est
Isabelle
mon frère.
Vernet. Professeur de chant, grande chanteuse qui est avec nous également. On va parler un petit peu de cette maison et sa tradition. Est-ce que d'abord, l'héritage de Pierre Barbizet, il est là, mais est-ce qu'il n'est pas parfois un peu lourd à porter avec ces pianos qui vous regardent toute la journée dans votre bureau, Raphaël Imbert?
Il y a pire comme fantôme, il y a pire quand même, je trouve. D'autant que moi, je suis un... d'une certaine manière aussi un élève indirectement de Barbizet, quand même. Pierre Barbizet, c'est quand même lui qui crée la première classe de jazz dans un conservatoire en France à l'époque.
1963.
Où, c'est ça. Et il demande à Guy Lonion, qui a été mon maître en l'occurrence, de créer cette donc immense trompettiste qui a joué avec Ciné Béchet, avec Django Reinhardt, qui nous transmettait des choses assez incroyables. Ils ont créé ça ensemble. Puis moi, Barbizet, ça représente quelque chose. C'est le premier concert classique que j'ai vu dans ma vie. C'était Barbizet avec Ivry Gitlis au théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence, parce que moi j'ai la double nationalité. J'ai eu deux passeports, aixois et marseillais. Je ne sais pas si je devrais dire ça en direct à la radio ce matin, parce que je vais avoir plein
vous
de commentaires.
Vous habitez entre les deux, d'ailleurs.
Bah, j'ai grandi dans le nord du département, en fait, et maintenant j'habite à Marseille, de fait, mais j'ai plutôt grandi dans la campagne aixoise, mais d'une famille marseillaise. Barbizet représentait beaucoup, et un jour, on m'emmène au théâtre du Jeu de Paume voir Gitlis et Barbizet. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Et disons, ce à quoi j'ai assisté m'a fait dire immédiatement que j'étais pas du tout destiné à la musique à ce moment-là. J'avais 13 ans, j'avais pas du tout découvert le saxophone et tout. C'était vraiment pas mon univers. Et je dis, ah, la musique, si c'est ça, c'est super. Parce que c'était très festif. J'en dirai pas plus parce que Pierre Barbizet avait une réputation de bien fêter les concerts après, mais parfois avant, visiblement. C'était une fête incroyable. Ils se sont plantés au milieu d'un mouvement. Ils étaient morts de rire et ils ont recommencé. Et en fait, c'est un jazzman. Il y a aussi un très beau document. Alors, vous me faites écouter Casimir avec Barbizet. Moi, j'ai pendant longtemps, je me suis dit, j'ai vu ce monsieur, et récemment, je me suis rendu compte en voyant ces images de Casimir avec Barbizet que j'avais vu ça moi quand j'étais gamin.
Sans savoir.
Voilà. Ouais. Donc j'ai eu un déclic, et en fait, il y a eu des très belles archives où ici il fait le bœuf sur un blues avec Marcel Zanini. Donc c'est vraiment cette ouverture-là, il crée la première classe d'électroacoustique en France, il crée la première classe de oud et de musique arabo-andalouse. Alors pour le coup, il avait peut-être raison un peu trop tôt, parce que la classe n'avait pas marché. Et d'ailleurs, notre intention, c'est à la fois d'innover, de regarder comment un conservatoire est de conserver. Alors d'ailleurs, le mot conservatoire ne vient pas de conserver en français, c'est une autre étymologie, c'est important de le redire, parce que souvent on fait des jeux de mots pas forcément très justes de ce point de vue-là, mais de conserver quand même malgré tout cette exigence pédagogique et artistique que Barbizet nous a léguée, et d'un autre côté d'inventer des choses, de voir comment la culture, notamment les cultures urbaines, les cultures populaires méditerranéennes de Marseille, qui sont présentes à Marseille, comment elles peuvent s'intégrer au conservatoire, ce n'est que se mettre aussi dans les pas de Barbizet. Donc il y a une forme de patrimoine et de créativité là-dedans qui est très, somme toute, très jazzistique finalement.
Isabelle Vernet, l'influence de Pierre Barbizet va-t-elle jusqu'à la classe de chant ?
Il adorait le chant. Il disait aussi aux instrumentistes, il faut jouer comme si vous chantiez. Donc il y a toujours une relation effectivement au chant, à la respiration, peut-être à la posture, au mouvement du corps, même quand on est à un piano, voilà, ou quand on est à un saxophone. Je t'ai vu, Raphaël, voilà, tu bouges, tu t'es... Non, enfin les autres aussi, mais je veux dire, je pense qu'il est là partout, Barbizet.
Et notamment dans cette bibliothèque avec quoi 10 mètres de plafond où on se trouve ce matin sur France Musique. Il y a cet héritage, il y a une tradition du chant aussi à Marseille. Vous n'allez pas dire le contraire.
Non, je ne dirai pas le contraire. Avec un merveilleux opéra. J'ai entendu ce matin lors de votre émission effectivement que Marseille était la deuxième ville et que effectivement il fallait faire un auditorium. Je suis complètement d'accord avec Macha. Je pense que vraiment cette ville mérite, parce qu'il y a des talents, il y a beaucoup de talents au conservatoire. Il y a comme disait Raphaël qui est un très talentueux saxophoniste, vraiment. Ça part de lui aussi. On est investis, les professeurs, les élèves sont investis. Ce qui est génial, c'est que Raphaël nous donne vraiment son accord pour pouvoir faire des concerts, pour pouvoir amener la musique aux gens, gratuitement. Donc, je veux dire, il y a aussi ça, hein, en cette période où vraiment, quand on va à l'opéra, les places sont très chères. Eh bien, par le biais du conservatoire, où on a vraiment de grands talents, on apporte cette musique aux gens, et on va dans les églises, on va dans des théâtres. Et ça, je trouve que c'est formidable, et qu'il faut avoir cette dynamique qu'aurait pu avoir qu'a eu certainement Pierre Barbizet par rapport à ses élèves, par rapport à ses aux professeurs qui étaient au conservatoire. Et je pense que vraiment, on devrait dire Marseille rayonne, le conservatoire rayonne, mais aussi l'orchestre, l'opéra, tout en fait.
Raphaël Imbert, ouvrir les portes du conservatoire depuis que vous êtes là, depuis 2 ans, C'est l'une des intentions que vous avez, l'une des idées importantes.
Extrêmement.
Beaucoup de gens qui ont découvert que le conservatoire était ici et passaient devant tous les jours sans le savoir.
C'est le cas de le dire. Je peux vous raconter. Moi, j'adore faire le guide touristique, hein, le guide patrimonial. C'est-à-dire, j'adore faire visiter le bâtiment. Je connais bien son histoire maintenant et tout. Et je suis frappé que des gens du quartier même, quand je fais visiter, me disent « Mais vous savez, Monsieur Humbert, en fait, on n'osait pas rentrer parce qu'on avait l'impression que c'était Dixit, une secte. » Il y a le côté du bâtiment qui est quand même très très imposant et le fait qu'un conservatoire comme ça, il a quand même malgré tout, il avait une image un peu fermée. Toutes les salles dans lesquelles on est, alors la bibliothèque c'est un peu différent, mais les salles qui sont à côté de nous, Boisselot, l'immense salle Magot qui est une merveille, était fermée jusque là. Donc ouvrir, et puis alors là, merci France Musique et merci à toute l'équipe et merci à vous d'être là parce que vous dites faire rayonner, mais quelle belle manière de faire rayonner que d'être avec vous aujourd'hui.
D'ailleurs les auditeurs marseillais de la région, on va le redire, ils sont les bienvenus ce soir, 18h, 20h, 4h, plus de 4h de live, et puis demain avec Clément Rochefort à 16h et demain soir à 20h, beaucoup d'heures de musique vivante sur France Musique. Si on allait à l'opéra, vous écoutez Isabelle?
Pourquoi pas.
Un extrait du Domino Noir d'Aubert avec les London Voices, l'orchestre de chambre anglais dirigé par Richard Bodinge. Et vous, Isabelle Vernet, c'était il y a quoi, quelques années?
Oh là là, mon Dieu, j'avais peut-être 20 ans. Je me rappelle très très bien, et c'est avec Soumit Jo et Jocelyne Taillon qu'on vient d'entendre aussi avec moi. Je l'ai retrouvée après dans mon démarrage, on va dire, de carrière en 1990, où je chantais Pénélope, et c'était ma nourrice, et elle était extraordinaire, parce que juste une petite anecdote, parce que ça fait vraiment très très longtemps, on avait sur la scène une espèce de carrelage et il y avait des lumières évidemment, et alors pendant que je chantais en plein dans mon grand air, elle me disait « Isabelle, vous n'êtes pas sur votre carrelage, vous me bouffez la lumière. » Et ça m'est resté, mais alors comme, vous voyez, au bout de tant d'années.
On parlait tout à l'heure avec Raphaël Humbert de ses professeurs, pédagogues, artistes. Vous, à quel moment vous avez basculé vers l'enseignement, vers la pédagogie, tout en continuant une carrière, hein? Vous sortirez dans quelques mois un disque de Vision, donc leader
Wagner.
De Wagner. Avec, j'imagine, on m'a dit que c'était avec Org, j'imagine que c'est avec Olivier Vernet.
Exactement, nous avons, il a un projet Wagner, donc à quatre mains, et il m'a demandé donc d'enregistrer, ça sera une grande première, les Vision, donc leader. leader, donc avec je les ai fait beaucoup avec avec orchestre, beaucoup avec piano, je les ai fait avec le quatuor Sophos, mais avec orgue jamais. Donc ça c'est une grande première pour moi, pour lui et je pense aussi pour un enregistrement. Et puis on va faire aussi des chants de Gaston Litaize. Ça sera pour un deuxième enregistrement.
Organiste aussi.
Oui, tout à fait.
La pédagogie, elle est venue comment d'ailleurs? Vous avez eu une grande professeure marseillaise, c'est Régine Crespin.
Mon Dieu, oui. Ça a été mon mentor, c'était vraiment une grande dame qui m'a tout appris. Et justement, pendant ces années, comme ça, au CNSM de Paris, je me disais, tiens, j'aimerais beaucoup enseigner, j'aime beaucoup chercher. Crespin me disait toujours, mais pourquoi tu cherches, vas-y. Bon, c'était une technicienne, mais pas une grande technicienne. On était plutôt dans on disait bon, là ce son est un petit peu trop petit ou élargi un peu, mais elle était pas vraiment complètement dans la technique. Et moi je me penchais justement sur cette technique et je me suis dit un jour, eh bien pourquoi pas, j'aimerais vraiment enseigner et peut-être léguer, c'est un bien grand mot, mais pouvoir d'abord donner mon expérience sur scène, parce que j'ai beaucoup chanté, et puis donner aussi à travers moi ce qu'elle m'a enseigné. Et je pense que c'est une belle filière, on va dire, une filiation, voilà.
C'est bien, Raphaël Labert, ça fait deux profs en un.
C'est ça, tout à fait. Bah oui. C'est une mesure d'économie et de rentabilité absolument merveilleuse. Quelle chance d'ailleurs. Je suis ravi de faire cette émission ce matin avec Isabelle parce que je savais que ça allait être assez drôle. Je pense que pour vous, Jean-Baptiste, c'est, voilà, vous avez deux bavards quand même en face de vous. Donc,
tant qu'on passe un peu de musique, tout va bien.
Voilà, c'est ça. Enfin, j'étais ravi de l'entendre d'ailleurs.
En plus, j'ai mon directeur qui est à quelques mètres. Donc,
bonjour Stéphane.
Raphaël Labert. En quelques mots, le projet artistique et le projet pédagogique que vous avez amené ici depuis 2 ans, comment on pourrait le résumer? C'est pas faire du jazz partout.
Non, surtout pas. D'ailleurs, oui, parce qu'on commence avec une nuit du jazz ce soir. Ça pourrait être vécu comme quelque chose de corporate, mais justement, on est là tout un week-end. Il y a à peu près tout qui va être représenté.
De la comédie musicale aussi, d'ailleurs, je le signale. Il y a de la comédie musicale avec Laurent Vallière dimanche midi.
Tout à fait. Il y a des choses assez, vraiment, assez merveilleuses, évidemment. La pédagogie. Alors là, pour le coup, je vais être un tout petit peu, un peu en retenue parce que moi, je suis sur les starting blocks. J'ai le frein à main qui est accroché depuis un an. Il s'est passé un peu des choses l'année dernière. Je sais pas si on est tous un peu au courant. Donc c'est là l'enjeu de cette année, c'est de relancer les choses. Et justement, on découvre. Je dois à Lionel Ponce, notre professeur d'histoire de la musique, qui d'ailleurs intervient tout à l'heure dans la tribune des critiques,
sera diffusé dimanche.
Voilà.
Enregistré aujourd'hui.
Enregistré. Excusez-moi. Oui. Tu vois. Voilà. C'est. Mais venez en public tout à l'heure. Voilà. C'est d'avoir découvert ce bicentenaire assez tard. On a découvert ça il y a quelques mois et on a lancé l'idée parce qu'on a vécu quand même une sorte de suspension assez problématique. Donc la pédagogie, le projet pédagogique artistique, c'est effectivement de retrouver un peu du lien, de retrouver un peu d'improvisation dans tout cela, en fait, d'oralité, en fait, pour généraliser. C'est-à-dire comment on arrive à faire résonner des projets pédagogiques et esthétiques différents. Et puis, vous savez, Christian Merlin tout à l'heure parlait d'établissement public. On est devenu un établissement public de coopération culturelle. Fusionné avec les Beaux-Arts, c'est quand même une nouveauté, c'est unique en France.
Ça change quoi?
Ben en fait, on a un établissement d'enseignement artistique pluridisciplinaire. Là, l'enjeu des projets pédagogiques futurs et artistiques, c'est comment on fait résonner tout cela.
On a dit qu'on écoutait un peu de musique, la vôtre. We'll be right back. Extrait d'Oraison, le dernier album de Raphaël Imbert avec son quartet Malose Sunset. Il est 8h moins le quart, 9h moins le quart.
France Musique, en direct du Conservatoire Pierre Barbizet à Marseille.
Raphaël Imbert, Malose Sunset, il n'y a pas de jaloux, hein, c'est l'un de vos enfants, mais il y a un titre pour chacun de vos trois enfants sur l'album, disque donc enregistré. Dans le bureau qui est à quelques mètres d'ici, dans le bureau de Pierre Barbizet.
Tout à fait. Et là, vous avez entendu Vincent Lafont, qui est professeur d'ailleurs de jazz ici et qui a joué sur le Steinway, enregistré sur le Steinway de Pierre Barbizet. C'est important de faire vivre ces instruments quand même. Et l'esprit de Pierre Barbizet était là hein, pendant l'enregistrement. C'était au début du deuxième confinement, un enregistrement qu'on n'avait pas pu faire avec le premier confinement. On a tout réorganisé et au moment où on décide d'enregistrer. On a l'annonce du deuxième confinement, on se dit non, c'est pas, on est maudit. Et là, le Premier ministre qui annonce, sauf les enregistrements, les répétitions, et là, on dit bingo, on y va, on le fait dans le bureau, on installe tous les micros, home studio. Et ça a été un moment assez fort et pour moi important de faire de la musique dans ce lieu, de se réapproprier musicalement aussi l'endroit et de faire de la musique.
Oraison, un album avec un titre. Comment on dit, polysémique, enfin, il y a plusieurs pistes, Oraison, tout de suite, on peut penser à une musique sacrée, une forme d'oratorio, et puis c'est tout simplement aussi le village où vous vivez.
Où je vivais, hein, il y a quelques années, c'est un village de Haute-Provence, entre Manosque et Sisteron, et qui a la particularité d'être le village en Europe qui avait décidé en 21, donc c'est aussi un centenaire, en 1921, de nommer toutes les rues des noms des morts pour la France de la Grande Guerre, des gens du village en fait. Et donc cet album est un travail sur la mémoire, c'est comment on décide de cela et comment, pourquoi qu'est-ce que ça crée comme distorsion de la mémoire, parce que c'est quand même assez marrant, les gens vivent dans une ville avec des noms de rues qui sont les gens de la famille, mais on retient pas des noms de rues qui sont devenus un petit peu oubliés, et d'un autre côté on s'en rappelle, on vit dedans et tout ça, donc c'est tout un travail sur la mémoire.
Isabelle Vernet, depuis que Raphaël Imbert est arrivé, vous sentez que les choses ont bougé? Il a un peu secoué le cocotier? Ça a été parfois un peu, peut parler librement et sans crainte.
Je m'absente de minutes.
Non, mais je parle toujours librement. Alors, comme disait Raphaël, effectivement, avec le confinement, ça a été vraiment très difficile.
Vous avez continué à donner des cours en vidéo?
Oh oui,
en visio.
Ça a été absolument, comment dirais-je? Difficile pour employer un mot, n'est-ce pas, correct. Non, c'était absolument affreux. D'abord l'élève à la bouche ouverte, vous n'entendez rien, l'élève à la bouche fermée, vous entendez un son. C'est horrible. En plus, j'habite dans un milieu rural en pleine campagne, on va dire en pleine forêt avec des sangliers. Tout ça pour dire que la fibre ne vient pas jusqu'à chez moi. Donc c'était absolument,
donc, la visio, c'est pas trop
d'accord. Donc c'était horrible, c'était horrible. C'est horrible. Heureusement qu'on a réouvert le conservatoire.
Est-ce qu'il y a eu des départs d'élèves, d'étudiants au moment de ce confinement?
Non.
Tout le monde est resté.
Non, tout le monde est resté. Tout le monde a. Je travaillais aussi par vidéo. Il m'envoyait des vidéos, donc il y avait quand même un lien. Et je crois que c'était important, malgré ça, ce lien quand même entre le prof et l'élève. Donc j'ai gardé tous mes élèves. J'ai une élève qui est partie en Chine juste avant le confinement. Elle a passé d'ailleurs son fin de diplôme de perfectionnement par visio parce qu'elle n'a pas pu rentrer en Chine. Mais je n'ai perdu aucun élève. Non.
Aujourd'hui, la classe de chant du Conservatoire de Marseille. Isabelle Vernet, c'est combien d'élèves?
Alors, nous sommes deux classes de chant. Il y a aussi une deuxième professeur, Magali Damante. Je pense que entre nos deux classes, on doit être pas loin de 35-36 élèves. Hein.
Et vos projets de l'année, il y a
notamment... Ah oui. Il y a justement, j'ai remonté un grand requiem avec plusieurs compositeurs. Donc j'ai reformé ce requiem et justement on était prêt à le chanter juste avant le confinement. On a été confinés le 15 mars, le 20 mars il y avait ce projet avec, je dirigeais aussi 11 cuivres parce que j'aime bien avoir voilà des partenaires de professeurs et de classe. J'adore les cuivres, peut-être ça vient de Wagner, je ne sais pas, ou Strauss. Et j'adore travailler justement avec classe de percussion. J'avais fait West Side Story il y a 8-9 ans avec la classe de percussion. Et voilà, donc ça, ce grand projet qu'on aimerait faire donc au moment de la voix il y aura un petit, si je me trompe pas, vers le 7 février, une soirée voix, enfin bon, autour de ça, la date n'est pas encore précise. J'aimerais faire aussi avec mes cycles de perfectionnement, parce que le perfectionnement va disparaître, ce sera autre chose. J'aimerais faire un concert, j'ai 5 élèves en perfectionnement, je vais chanter avec eux un duo, avec chacun d'eux, et puis peut-être un quatuor quintette, voilà, j'aimerais faire ce concert-là, et au mois de juin, un concert sur scène, où je mettrai en espace.
Des concerts avec les portes ouvertes ici du conservatoire, d'ailleurs il y a différentes salles de concert ici, c'est assez rare dans ce conservatoire, Raphaël Imbert.
En fait, c'est une chance parce que on est dans un palais des arts qui a rien à voir avec la musique au départ. Le projet d'Espérant Dieu, l'architecte, c'est le palais des beaux-arts, en fait. Donc, il n'y a aucune référence à la musique dans ce bâtiment. C'est assez étonnant. Et on a un conservatoire d'acoustique. Là, on est dans la bibliothèque. On a deux grandes salles avec du bois incroyable. La salle Magot, qui a une acoustique de cathédrale. La salle Tomasi, qui est un vrai auditorium. C'est une chance assez incroyable d'avoir ces salles. C'est d'où l'intérêt de faire des nuits comme ça, des balades. Et je précise quelque chose. Je suis heureux de l'annoncer ce matin officiellement, mais on a, après les concours d'entrée, plus d'élèves cette année qu'avant le confinement. Donc ça, c'est une vraie... Et ça, on le doit à toutes les équipes pédagogiques, scolaires, administratives, et je les remercie.
Raphaël Imbert, directeur du Conservatoire de Marseille, Pierre Barbizet, Isabelle Vernet, professeur de chant. Autre professeur de composition, c'est Régis Campo. Voici sa musique. Extrait d'une solitude de l'espace de Régis Campo avec l'ensemble TM+, dirigé par Laurent Cugnot. Régis Campo, l'un des professeurs du Conservatoire de Marseille. Raphaël Imbert, il nous reste très peu de temps qu'on évoque ses élèves aussi, donc plus qu'avant, plus de 2000. Comment on fait?
Un petit peu moins quand même. On n'est pas encore revenu au... Voilà.
Autour d'eux, mais plus qu'avant le confinement. Comment on fait pour que tous ces élèves ils ne viennent pas que de certains arrondissements de Marseille, du 6e, du 7e? Comment on essaie d'assurer une mixité sociale?
Alors la mixité sociale, on l'a en fait. On est même c'est assez facile d'étudier cela et de le montrer. En fait, on représente la mixité du centre-ville de Marseille, qui est quand même une des rares dernière grande ville européenne à avoir une mixité sociale dans le centre-ville. Donc en fait, par contre, c'est le revers de la médaille. On a ce problème de représentation et de représentation territoriale. Ça va être l'enjeu d'ailleurs des grands projets futurs, de voir comment le conservatoire peut rayonner sur le territoire et comment le territoire peut venir au conservatoire. Ça, c'est vraiment un de nos projets les plus importants. Malgré tout, je lutte énormément contre l'image d'un conservatoire qui serait un petit peu ankylosé et un peu socialement marqué, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. J'invite les gens à venir le mercredi où il y a le plus d'élèves et vous verrez cette diversité dans tous les sens du terme qui est représentée dans ce conservatoire et qui est assez unique en fait en son genre. C'est vraiment à l'image, non pas peut-être du tout le territoire, mais du centre-ville de Marseille, ça très clairement.
Raphaël Imbert, est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? L'endroit est magnifique, mais on voit que parfois il y a des endroits où il pourrait être un peu rénové.
Il vous a pas échappé que Marseille était à la mode en ce moment, qu'il y a un vrai intérêt. On travaille vraiment d'arrache-pied avec l'équipe de l'EPCC, de l'établissement public, avec mon directeur général, Pierre Houdard, pour justement voir comment on peut enfin faire résonner et aligner les planètes pour justement engager des financements pour la rénovation de ce bâtiment et de l'UMINI, donc des beaux-arts actuels qui sont près des Calanques. On a vraiment deux endroits incroyables très très différents qu'on a besoin de rénover et de voir comment on peut actualiser tout cela. Donc là, on est vraiment dans ce travail-là. Hein.
Ça renvoie à la question que posait il y a une heure Christian Merlin et à laquelle Macha Makeyev, ici à ce micro, a répondu. Il faudrait un auditorium, un grand auditorium à Marseille. Est-ce que Marseille, deuxième ville de France, a la vie musicale qu'elle mérite? Ce sera ma dernière question à vous deux.
Oh ben, en tout cas, on fait tout pour quelle est la vie musicale.
Est-ce qu'on vous donne suffisamment de moyens pour ça?
Il y a clairement une dynamique qui est en train de se passer. Ça, c'est évident.
Et d'ailleurs, la preuve, ce week-end, France
Musique... Je n'osais pas le dire, justement.
C'est ça, justement.
Là, on voit ce... Isabelle Vernet,
oui,
les choses bougent.
Je pense qu'avec France Musique, quelque part...
On ne va pas tout faire. Hein.
Non, mais je veux dire voilà, on parle du conservatoire, on parle des possibilités musicales dans cette jolie ville. Et il faudrait vraiment que la municipalité effectivement suive aussi.
Il n'a pas échappé que la municipalité a changé après un maire qui était là depuis très longtemps.
Certes, mais on attend que ça change.
Raphaël Imbert, hein.
Bah, c'est en train de changer. Il y a vraiment des choses qui sont, on le voit, il y a un intérêt, il y a beaucoup de questionnements. Je veux dire, on est quand même dans une ville avec une problématique financière qui a toujours été là. Mais malgré tout, il y a une dynamique et il y a enfin beaucoup de partenaires autour de la table. C'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que là, d'un coup, bon, mais voilà, il y a ce Marseille en grand qui est en train de se mettre en place entre l'État, la ville et tout ça. Et le conservatoire par rapport à un projet d'auditorium, par exemple. Oui, auditorium à Marseille, oui. Mais il faut le faire avec un conservatoire et des écoles d'enseignement qui fonctionnent parce que c'est nous qui créons le public. C'est nous qui allons faire cette symbiose. Si la Philharmonie de Paris marche, c'est parce qu'elle est en symbiose avec un CNSM. Donc il y a clairement une ouverture qui est en train de se créer à Marseille, et c'est un vrai challenge pour nous, ça c'est évident.
Impossible n'est pas marseillais. Mission impossible à Lou Schifrin avec un professeur du conservatoire, Vincent Berdemander, professeur de mandoline, et Nicolas Mazmanian au piano. Merci à tous les deux.
À réécouter sur francemusique.fr.